suite, vous avez le créneau libre sur Radio Bartas.
Aujourd'hui, direction le Mas de Val pour voir la sortie de résidence de la compagnie La Joie Errante pour leur création Vacarme ou comment l'homme marche sur la terre. Allez, montez en voiture, c'est parti! Ça y est, on arrive au Mas de Val. Ah, j'aperçois Alice de la Jeunette Verte. Chut, on va l'écouter.
Je remercie l'association du Mégenre de nous accueillir ici ce soir. Donc, je suis Alice, la directrice de la Jeunette Verte, donc, qui est située à Florac, mais qui est maintenant un complexe culturel intercommunautaire donc, de la communauté de communes Gorges-Causses-Cévennes. Donc, c'est dans le cadre de ces nouvelles missions que nous sortons de Florac. Et nous prenons l'air. Et donc, la compagnie La Joie Errante a accepté de venir travailler ici. Donc, ils sont là depuis lundi. Donc, c'est un spectacle qui est en création. Là, ce soir, donc, ils vont vous proposer qu'une petite partie.
Oui.
Je les laisse en parler.
Ah, voilà les comédiens de la compagnie. Alors, qui sont-ils ?
Je suis Thomas Pouget, je suis comédien et metteur en scène et directeur artistique de la compagnie de La Joie Errante.
Sylvain Lecomte, comédien à l'intérieur de la compagnie de La Joie Errante.
Et moi, c'est Valentin Clerc et je suis également comédien dans la compagnie de La Joie Errante.
Donc là, vous êtes en résidence, donc, comme je disais, depuis lundi au Mas de Val. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste un travail en résidence pour une compagnie ?
Alors, un travail de résidence pour une compagnie, là, ça va être un premier temps vraiment de travail pour tester sur scène une matière textuelle qu'on a eue, où il y a un auteur qui s'appelle François Perrache qui a écrit du coup la pièce. Et nous, cette semaine, tout le travail a été de vraiment s'imprégner de ce qu'il a écrit et essayer de rendre ça compréhensible sur le plateau avec des déplacements, avec des moyens scéniques. C'était la première fois aussi qu'on découvrait la scénographie à l'échelle 1, donc c'était important de savoir comment est-ce qu'on pouvait agencer les différents éléments et d'arriver à bouger. Et en plus de ça, le travail de résidence, c'est vraiment, à mon sens, s'imprégner vraiment d'un territoire, ce qu'on fait déjà puisque la compagnie est basée sur le Nord Lozère, mais c'est déjà un travail de s'intéresser aux gens, les rencontrer, échanger avec eux, et ça sera l'occasion aussi ce soir, après la sortie de résidence, justement, d'échanger sur le texte.
Et voilà que tout recommence, l'homme se penche de nouveau sur la terre. Et voilà que tout recommence, des hommes inventent de nouveau une histoire.
Une histoire qui commence presque toujours par « il y a bien longtemps » ou « il était une fois ».
Il était une fois, même si tout, chaque fois, recommence.
Il y a bien longtemps, donc, des cultivateurs de blé inquiets de voir l'hiver se prolonger inventèrent eux aussi une histoire.
Comme nous allons le faire ce soir.
Une histoire simple, mais mystérieuse, à l'issue incertaine et aux personnages inquiétants.
Je voulais revenir sur les débuts de la compagnie, puisqu'en fait, vous êtes implanté en Lozère depuis juillet 2015. Pourquoi avoir choisi comme terrain de jeu la Lozère, en fait ?
Parce que, alors, il y a plusieurs choses, on en parlait cette semaine. Déjà, je suis lozérien, et puis après, j'ai pas mal bougé nationalement, et puis aussi un peu à l'international sur des tournées. Mais c'était l'idée que la culture et la décentralisation, en tout cas, elle se doit d'être effective partout et vraiment sur tous les territoires. Et que je trouve qu'on a tendance parfois, hélas, à centraliser beaucoup la culture dans les grandes villes, mais qu'il y a un vrai travail maintenant d'arriver à amener de la culture à 5-10 kilomètres, parfois de villages complètement excentrés de l'offre culturelle. Et étant lozérien, ayant grandi en Lozère, quand il fallait aller au théâtre, par exemple, à Mende, à 30 km de chez mes parents, ou à Marvejols, et que mes parents aussi sont agriculteurs, bah, c'est pas toujours évident, en fait. Et je pense que ça participe aussi, le travail de la compagnie, à rendre cette culture accessible avec une vraie belle exigence, en étant professionnel, en travaillant sur une accessibilité des textes qu'on donne à entendre, mais au moins, en tout cas, de se dire il y a une vraie ouverture possible, il y a une vraie opportunité de venir au théâtre et à la culture.
Mais ne parlons pas d'argent, ici on a la passion du métier.
Il est temps de commencer notre histoire.
Ça a déjà commencé. Un conseil, un seul, ne cherchez pas à tout retenir, à tout comprendre.
En tout cas, pas tout le temps, pas tout de suite. Ici, Ce qui est dit, on le comprend souvent plus tard dans la soirée.
Et n'espérez pas trop de réponses, ici on pose des questions.
Mais de quoi ça parle notre histoire?
En tout cas ça parle, et ça a déjà commencé.
Ça va raconter une histoire?
Ah bien sûr, une vraie histoire inventée. Pourtant ce n'est pas tellement ce qui se passe qui est intéressant, mais comment ça se passe?
Et pourquoi ça se passe?
Pour commencer vraiment, je veux dire, il nous faut un personnage principal.
Moi. On t'avait presque oublié, je travaillais.
Comme vous êtes installé en Lozère, vous menez des actions, je pense au niveau des écoles peut-être. Vous avez fait beaucoup de lectures aussi en public. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de vos actions en Lozère?
Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, la compagnie, il y avait le souhait de faire des lectures dans les villages et aussi dans les maisons de retraite, et que ça a commencé à prendre de plus en plus. Et en fait, Samuel Le Cabec, le directeur du ciné-théâtre de Saint-Chély-d'Apché, et en parlant avec Samuel, il me dit « Mais en fait, est-ce que ça te dirait d'être artiste associé pendant 3 ans au ciné-théâtre ?» Et donc du coup, il m'a demandé de budgétiser plusieurs actions. Il y avait des interventions collège-lycée, il y avait quelques lectures au ciné-théâtre, et il y avait un spectacle, on y reviendra, mais pour la Lozère en tout cas, pour vraiment continuer à implanter la compagnie sur le territoire. Et face à ça, Pierre Lafont, qui est le maire de Saint-Chély-d'Apché, et lui m'a demandé de budgétiser une lecture dans chaque village de la communauté de communes, des terres d'Apché, Marjorie d'Aubrac, plus 50 heures d'intervention dans 2 écoles primaires, plus un stage avec des amateurs pendant 10 jours, plus il a apporté de nouveau ce qu'on appelle une aide à la création pour le spectacle sur la ruralité. Donc ça a été... On a vraiment commencé en fait cette convention en janvier dernier, donc ça fait pas tout à fait 1 an. Et ça a été une année dense, très très riche, entre les interventions dans les écoles. Entre-temps, la compagnie a été sélectionnée aussi par un autre dispositif qui s'appelle Création en cours, qui est piloté par le ministère de la Culture et les ateliers Médicis, et qui consiste à envoyer un artiste dans une zone complètement excentrée de l'offre culturelle. Moi, j'étais dans le Cantal. Et en fait, on lie cette activité dans l'école, dans une école primaire, à un travail de création, donc du coup, vacarme, ou comment l'homme marche sur la terre. D'accord. Plus les lectures, plus les résidences aussi sur le territoire, puisqu'on avait commencé à préparer le travail de vacarme.
Pierre,
je regardais le jour se lever. Quelle merveille.
Tu es le héros maintenant, il te faut agir.
Il me faut un métier. Je serai exploitant agricole.
Exploitant? Beau métier, vilain mot.
Agriculteur?
C'est mieux.
Paysan.
Enfin un peu de modestie.
Au contraire, c'est de la fierté. Je serai paysan, comme mon père, comme mon grand-père, comme le père de mon grand-père.
Et les femmes?
J'aurai des champs de la plus belle terre, des champs à perte de vue, des champs vallonnés, des champs si beaux que travailler y sera une joie continuelle, éternelle, des champs cernés de forêts profondes, vibrantes de vent et d'oiseaux. J'aurai des champs de maïs, de tabac, des avrils de colza vert tendre et jaune, des juillets de blé, d'orge et de seigle, et, sous un août de plomb, des armées de tournesol plus jaunes encore. Je serai paysan.
C'est un beau métier.
C'est un beau métier, il te faut une femme.
Une ferme. Il me faut une ferme. Une belle ferme, entourée de murs solides mais pas trop hauts. Avec un chien. Avec des chiens les plus gros de tout le pays. Des chiens qui seront la terreur de tous les enfants du village, mais affectueux avec moi et toujours dans mes pattes. J'aurai une ferme. Une ferme...
belle.
Belle.
Vacarme. On peut dire que c'est une fiction nourrie d'un important travail documentaire en Lozère, en collaboration étroite avec des acteurs du monde agricole. Quel a été ce travail documentaire en amont de cette création?
Alors déjà, il y a eu plusieurs résidences. C'est un travail qui a commencé il y a 2 ans. Et donc on est arrivé avec déjà un premier travail qu'on avait fait séparément. Et puis on a commencé à échanger nos idées, les idées qu'on avait ensemble. Et puis s'est installée aussi toute une série de rencontres avec des agriculteurs, des vétérinaires, des inséminateurs, des élus. Ces deux périodes de résidence ont permis d'amasser le plus de matière possible pour essayer de se rapprocher de trancher aussi sur ce qu'on allait vraiment faire précisément, savoir si on se rapprochait que... Il s'est trouvé que ça a été l'agriculture qui a été le point d'ancrage. Et ensuite, s'est greffé à nous un auteur, donc François Perrache, qui est un auteur de France Culture et France Inter, qui est aussi comédien, mais qui donc a été l'auteur de cette pièce et qui a réussi magnifiquement à faire une sorte de brassage de tout ce que nous, on avait amené sur la table, et qui a magnifiquement en fait créé cette pièce. Voilà.
Sachant qu'on est à peu près à 150 personnes à peu près interrogées,
Ah oui.
Et qu'au départ, au tout début du projet, quand Samuel parlait de faire un spectacle pour la Lozère, on lui a dit, bah en fait, peut-être qu'on peut faire un spectacle plus large sur ce qui se passe en campagne. Mais évidemment, la campagne, enfin, il se passe mille et une choses. Et on a été obligé de choisir en se disant, qu'est-ce qu'on aborde comme thématique vraiment en campagne. Et une des thématiques, mais parce qu'on est tous les trois liés à cette thématique-là, les parents de Sylvain sont maraîchers, Valentin vient aussi de la ruralité, mes parents sont agriculteurs. Et puis aussi François, bien sûr, a un rapport assez évident avec l'agriculture. On s'est assez vite dit, mais en fait, ce qui nous unit aussi, c'est ce thème de l'agriculture. Puis en se renseignant un petit peu sur ce qui se passe en ce moment dans l'agriculture, il y a des films qui sortent, notamment avec Guillaume Canet. Il y a une prise de conscience des nouvelles formes d'agriculture possibles, envisagées. On arrive peut-être au bout d'un système aussi agricole, à savoir comment on peut renouveler ça, comment est-ce que, par exemple, des agriculteurs, c'est un des sujets de la pièce, mais comment est-ce que les gens qui nous nourrissent finissent par se suicider à un moment donné, ouais. Est-ce que, comment on s'en empare de cette question-là, qui est parfois aussi une question tabou. Et on ne voulait pas juste que ça soit une impression personnelle de notre part en disant « on a entendu ça, parce qu'on l'a entendu, c'est vrai ». On voulait aussi, quelque part, légitimer notre démarche en disant qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on va raconter, ou comment vous vous situez, vous, en tant qu'agriculteur, par exemple, sur la PAC, par exemple, où est-ce que vous en êtes? Et puis, par exemple, d'avoir des agriculteurs qui nous disent c'est les banques, on est assassinés par les banques. Ben, tout d'un coup, d'aller rencontrer des banquiers et d'avoir tout d'un coup un autre écho de la part des banques, ça nous donne une idée de la complexité, en tout cas, de ce que c'est que l'agriculture en France, ou au moins une agriculture en France.
Et aussi les belles choses aussi qu'ils avaient envie qu'on dise de leur métier aussi, voilà, oui. Puisqu'il y a aussi de la beauté, il n'y a pas que de la tristesse et des suicides, il y a aussi... Donc il y a un mélange de tout, normalement c'est un spectacle qui devrait durer 24 heures, mais on va essayer de le faire en 1h30, donc voilà, il a fallu aussi trancher.
Quand vous dites que vous avez été en contact avec à peu près 150 personnes, ça s'est passé comment vous avez trouvé ces contacts-là?
Alors il y a plusieurs choses, on a mené ces 150 à peu près entretiens et rencontres sur le Cantal et la Lozère, puisque du coup sur Création en cours, okay. Le dispositif, on était dans le Cantal. Et surtout ce qui est parti Lozère, par exemple, moi je suis revenu habiter ici après 4 ans à Paris, et en même temps je continue à avoir un lien avec les habitants, avec des agriculteurs, avec la chambre d'agriculture qui nous a dit peut-être que vous pouvez aller à tel endroit voir tel agriculteur, et en fait de fil en aiguille, par exemple, anecdote mais assez marrante, on prend rendez-vous avec François en décembre dernier à la Genette Verte, on sort du rendez-vous à la Genette Verte, et puis il se trouve que juste en face, il y a une boutique Tuféry.
Oui.
Et François a besoin d'un jean à ce moment-là, hasard, il rentre dans la boutique, il demande s'il y a un jean, il n'y a pas sa taille, donc l'oncle du patron de Tuféry nous dit, écoutez, allez à l'atelier, on lui explique un peu le projet en disant, ça nous parle en tout cas ce que vous faites, de faire vraiment des jeans, de faire travailler les locaux, de faire travailler aussi du Made in France et puis de cette éthique-là, quoi. Donc on nous voilà partis à l'atelier Tuféry, où on rencontre Julien Tuféry, à qui on explique le projet. Finalement, François, on achète des jeans. Mais Julien nous dit, écoutez, si vous avez besoin, en tout cas, surtout, n'hésitez pas, on peut répondre à vos questions. Il nous explique qu'il prend de la laine du Cos aussi, qu'il achète de la laine du Cos à un agriculteur. Et puis, on en reste là. Le soir même, on a rendez-vous avec François chez un agriculteur. Et puis, il fait de la brebis. Je lui dis, mais pourquoi, en fait, est-ce que tu vends pas ta laine à Tuféry? Mais il me dit, mais en fait, c'est moi qui vends la laine à Tuféry. Donc, tout se croisait impeccablement, en fait, en permanence. Et de rencontre en rencontre, on était dans un gîte pas très loin à Florac aussi, où la personne dit, ah, mais vous avez vu telle personne? Ah, mais bien sûr, mais avant, j'étais formatrice, et puis je l'ai eu en classe. Donc, on arrive à avoir une idée assez globale aussi, et tout le monde se connaît, c'est la Lozère. Oui. Et ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai rencontré de nouveau Julien Tuféry plus tard, et que c'est les ateliers Tuféry qui fournissent les costumes de la pièce. Et ils donnent du coup les jeans et les pantalons. Ouais.
Ah, c'est génial.
Et après, pour les t-shirts, on a fait appel à une autre entreprise qui s'appelle le T-shirt Propre, qui, eux, font des t-shirts et qui sont basés à Rodez. Et pareil, ils sont dans la même éthique. Mais on s'était dit, en tout cas, que dans cette idée de prôner l'agriculture locale, de vraiment alimenter les circuits courts, faire un spectacle, ça devait passer aussi par cette éthique-là et cette hygiène, entre guillemets, de se tenir à la parole qu'on s'était fixée sur le plateau. Et des accessoires, c'est exactement les couteaux avec Dominique Biondi, voilà, des gens qu'on a rencontrés dans notre parcours et tout ça, qui sont de la région Occitanie. On se dit, en fait, c'est l'occasion de vraiment pousser le projet à fond. Et pour venir aux rencontres, moi, ça s'est fait vraiment de, soit par connaissance, soit des gens avec qui moi j'étais par exemple à l'école, et puis j'ai su qu'il y en a une qui était par exemple inséminatrice, ou un qui était devenu paysan, qui était très spécialisé dans un domaine, un apiculteur. D'essayer de vraiment croiser beaucoup d'agricultures différentes et puis des contacts qu'on avait, d'essayer d'entrecroiser tout ça. Mais ça a été... c'était passionnant, quoi.
Et ça a été un travail sur combien de temps on va dire, ce travail documentaire, ça vous a demandé beaucoup de temps, j'imagine.
On s'est retrouvé deux semaines entre février et mars à la Chartreuse, qui est le Centre National d'Écriture Contemporaine à Villeneuve-les-Avignon. Mm-hmm. Donc, bon, évidemment, ça, c'est les moments où on se retrouvait, mais évidemment qu'entre chaque session, il y avait à chaque fois des temps où d'organisation, d'écriture, notamment du côté de François,
de référence commune,
de lecture, tout ça. Donc, là, ça fait maintenant bien deux ans qu'en tout cas le projet est lancé, et donc avec tout ce que ça nécessite, à savoir l'organisation, le contact avec les locaux, avec les partenaires, l'administratif et tout ça. Et donc là, on était très contents lundi de pouvoir enfin se retrouver, se dire allez, dernière ligne droite, c'est parti, on y va. Parce qu'en l'occurrence, à la Chartreuse, donc au centre où on a écrit, où on a eu deux semaines de résidence là-bas pour continuer à écrire et créer le projet, on a fait une première lecture publique à la fin des deux semaines, qui nous ont évidemment beaucoup fait frémir, puisque les lectures, en tant que personnellement, en tant que comédien, il y a un exercice assez amusant et en même temps très frustrant, parce qu'on est derrière un pupitre et on a envie de commencer à aller dans l'espace. Et là, c'est ce qui se passe enfin depuis lundi, et c'est très très agréable de pouvoir enfin s'y jeter. Et encore une fois, on est nourri de deux ans. Donc on n'arrive pas comme des simples comédiens qui auraient un texte qu'ils n'auraient pas écrit, ce qui est un autre exercice que je pratique aussi. Mais là, vraiment, on arrive avec comme si on était un peu aussi des auteurs du texte. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus chargé, en fait.
Le 43. Une boîte de nuit. La boîte du coin. Gratuit pour les filles le samedi. Les années passées, la patronne vieillissait, les prix augmentaient un peu.
14 euros l'entrée.
Mais le 43 restait le 43, comme si cette grange au bord de la Nationale avait toujours été là. Le 43 pour Pierre, en partant de chez lui, en partant des drails, quand il avait 14 ans, c'était à 3 quarts d'heure de vélo en pédalant fort. Puis quand il a eu 16 ans, c'était à 20 minutes de mobylette. Et à partir de 18 ans, le 43 était à 10 minutes seulement, le soir, où le père acceptait de prêter la R5. Je pouvais difficilement dire non. Oui, parce que le 43, c'est pas seulement l'endroit où Pierre avait rencontré sa femme.
Salut, Pierre.
Sylvie.
Salut. On se connaît pas, non?
Ouais. Enfin, non, moi je t'ai vu dans la cour du lycée. Pierre Gaillard, c'est ça?
Ouais, on est au drail, les brebis. T'es où, toi?
Dans le village, en face de la mairie, on vient d'emménager. Je suis de Grenoble.
Ça doit te changer des montagnes. En face de la mairie, j'ai la R5. Je peux te ramener si tu veux tout à l'heure.
Pour la R5, je pouvais difficilement dire non. Le père pouvait difficilement dire non, parce que c'est aussi au 43 que Jacques, le père, 20 ans auparavant, avait rencontré Marie.
Non,
si, à la campagne, tout est possible. Par exemple, avoir les mêmes lieux de drague que ses parents.
Et ça s'appelait déjà le 43?
Ah, bien sûr. Et si la musique était moins forte, on pourrait entendre la patronne, la jeune patronne qui est devenue la vieille patronne, toujours vissée au bar, raconter encore et encore l'histoire de sa boîte. La seule boîte du coin.
La grange, c'est tout ce qui reste, mais avant, il y avait toute une ferme ici. Jusqu'au village, il y avait toute une série de petites fermes. Alors avant qu'ils fassent la nationale, la ferme, elle était au bord d'une route que les anciens appelaient le chemin des Fèdes. Les Fèdes, c'est les brebis, en patois. Alors quand j'ai racheté et qu'il a fallu trouver un nom et donner une adresse pour le courrier et tout ça, j'ai repris l'ancienne, 43 chemin des Fèdes, et le nom est resté. Tu Sur point vert, Pierre, fâche de l'offre. Un dernier, je veux pas d'ennui avec les gendarmes.
Alors, Vacarme ou comment l'homme marche sur la terre, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Pierre Gaillard. Il était une fois, Pierre Gaillard, à la ferme des Drailles. On n'a volontairement pas défini le lieu exact de cette ferme-là. On sait que c'est quelque part sur le Causse. En France, il y a énormément de Causses différents, donc ça n'est pas forcément la Lozère. Il y a donc Pierre Gaillard, et en fait, on s'attache à l'année de ses 43 ans en partant du postulat que raconter toute la vie de Pierre pour résumer toute l'agriculture en France en une heure et demie, c'est pas possible. Donc on va s'attacher à raconter pendant une heure et demie une seule année, celle de Pierre, et on va voir comment gravitent autour de lui sa famille, ses amis, ses voisins, des personnages extérieurs, la maîtresse par exemple, le vétérinaire, un prêtre, enfin voilà, donner en tout cas à entendre autour de cette vie de Pierre plein de personnages qui peuvent aussi alimenter toujours ce récit de la vie de Pierre. Ça, c'est la colonne vertébrale, finalement, du récit. Face à ça, il y a aussi un aspect plus narratif, presque une image de conte, finalement, où il y a des éléments qui sont donnés, notamment, par exemple, des chiffres aussi, pour qu'on se rende compte. Il y a des parties où c'est purement du conte et on raconte un événement qui est arrivé à Pierre, qui est plus anecdotique en tout cas, mais qui est vraiment arrivé à ce personnage-là, mais inventé. C'est aussi le pouvoir de l'écriture, c'est qu'on peut arriver à écrire ce qu'on veut à partir des témoignages qu'on a reçus, tout en étant fidèle à ce qu'on nous a transmis. Et puis enfin, il y a une partie qui est la première partie, qui est une pseudo, le mot vulgaire c'est méta-théâtralité, mais c'est-à-dire qu'on explique très, très facilement pourquoi agriculture et culture ont toujours été liées depuis la nuit des temps, depuis plus de 2000 ans. L'agriculture et la culture ont toujours été liées, toujours. Et ça nous a frappé, notamment quand on a eu des rendez-vous, que certains agriculteurs nous disent mais la culture, c'est pas pour nous, on n'a pas les codes. Et ça participe d'une vieille image de culture élitiste. Et ça nous semblait important de raconter que, notamment chez les Grecs, par exemple, ils inventent une histoire. Pour les saisons, eh bien, il y a une déesse qui s'appelle Déméter. Et puis, elle a une fille qui est la déesse du printemps. Et en fait, la déesse du printemps, elle va passer 4 mois en enfer, qui correspond en fait à l'hiver. Donc le printemps va en hiver. Et puis en fait, Zeus, le grand dieu, il dit « Attends, elle est emprisonnée depuis trop longtemps là. 4 mois en enfer, c'est déjà pas mal. En hiver, c'est déjà pas mal. » Donc le printemps va revenir sur Terre. Donc on a déjà l'hiver, puis finalement le printemps qui revient sur Terre. Mais tout ça est purement fictionnel. Mais il commence à s'amuser avec le récit de cette chose-là. Les Romains font exactement la même chose avec les agriculteurs, des cultivateurs de vignes, qui commencent à jouer tout d'un coup pour rendre hommage à un dieu. Mais de nouveau, ils font de la culture à partir de l'agriculture. Donc c'est vraiment lié depuis la nuit des temps.
Depuis le départ de Sylvie, c'est la seule chose qui soulageait Pierre quand il arrivait à trouver un petit moment dans son emploi du temps. Courir, courir, courir. Il montait sur le Causse et il se tenait face au vide.
Ah ! Les paysans, ça se tait la plupart du temps, alors quand ça parle, ça fait du vacarme. Et ça sort. Comme ça peut, pas poli, pas bien droit, pas comme il faut. Ça pousse à l'intérieur, alors ça sort en touffe, comme la mauvaise herbe, par bouffée. Et oui, une brebis, ça belle, un coq, ça chante, et un paysan, parfois, ça gueule. Alors évidemment, ça dérange. Ça dérange dans le paysage, toute cette nature si calme, tout ce silence. Ça dérange comme le chant du coq. On parade fièrement avec un coq sur nos t-shirts de football, mais on se plaint, on s'étonne même de l'entendre chanter au lever du soleil.
Ah, nous, on est en vacances, il pourrait attendre 10 heures pour chanter. Ah, je m'excuse, mais un coq, ça chante.
Donc on peut dire que c'est aussi un hymne, oui, au monde rural, dans le sens où vous abordez l'histoire de l'agriculture française, effectivement, et ses bouleversements dont les enjeux dépassent le monde agricole. On y aborde aussi donc des problématiques universelles qui traversent notre société contemporaine à travers ce thème que vous abordez, de l'agriculture, de la campagne, de la ruralité.
Bien sûr qu'il y a une grande thématique qui touche l'agriculture, et, mais pas que aussi en France, c'est forcément le suicide. Et donc cette question est abordée dans le spectacle.
Par exemple, on peut parler de la place des femmes. On aborde la place des femmes parce qu'on est trois acteurs pour le coup au plateau, mais oui. Sur beaucoup d'entretiens qu'on a menés, que ce soit du côté vétérinaire, agriculteur, inséminateur, il y avait souvent cette question du célibat qui revenait régulièrement. Oui. Il y avait cette question de la solitude. Il y avait cette question des femmes qui sont omniprésentes dans l'agriculture parce que elles font vivre la ferme aussi. Quand elles ne sont pas agricultrices, elles font aussi une part de compta, ou elles sont omniprésentes. Mais en même temps, elles sont assez peu représentées. Et on voulait aussi rendre compte de cet état de fait et l'interroger. Et François met tout au long du texte beaucoup d'incises pour justement dire « et les femmes, en fait ?» À quel moment est-ce qu'on en parle de cette chose, de cette chose-là et de ces, oui. ces personnes qui manquent vraiment ? Donc il y a ça, il y a la surproduction, la surconsommation, la place du patriarcat aussi en campagne. Qu'on interroge encore une fois, hein, on ne donne aucune réponse. Mais on invite à se poser ces questions-là au travers de la fiction. Les relations du travail, les relations familiales. Mais on est parti du postulat aussi que, en fait, la vie de Pierre est presque, en fait, parler d'agriculteurs, des agriculteurs, c'est presque, en fait, un prétexte pour parler d'un homme, en fait, qui, comme tout le monde, a ses difficultés, ses joies, ses succès, ses amours. Et il traverse aussi ça comme nous, chaque jour. On raconte l'histoire d'un homme. C'est un homme et il se trouve que l'histoire de l'homme, c'est un agriculteur. Mais on veut vraiment rendre compte de la complexité, en tout cas, de ce que c'est, quoi. Il y a une part informative, mais il y a une grande part fictionnelle.
Non, et puis, évidemment, on parle d'un homme qui est agriculteur, mais ça vient, on vient de parler d'un homme dans son travail avec ses difficultés. Et je vois, il y a plein d'autres domaines, évidemment, professionnels, où il y a plein d'autres soucis. Oui. Ma mère, elle est infirmière, par exemple. Oui. C'est aussi un autre débat dont on parle énormément. Et moi, je pense que ce spectacle, il peut vraiment inviter les gens à se rassembler, dans le sens où ça vient questionner aussi... comment d'un seul coup, oui, on dit à un moment donné, j'ai une phrase moi dans le texte qui est qui parle des paysans et des consommateurs qui se retrouvent seuls face au modèle productiviste, modèle agricole productiviste contemporain. Enfin, d'un seul coup, ça vient tous nous mettre dans ce même panier que finalement, on parle de ce qu'on mange tous, quoi. Oui. Et notre réplique est bon. Là. J'essaie de ne pas trop en dire non plus, mais qui est de comment on peut tuer ces gens qui nous nourrissent. Et à partir de là, je pense que on est forcément tous concernés. Il y a cette question des femmes, il y a cette question aussi de d'un seul coup la femme qui est enceinte, comment d'un seul coup elle se retrouve un peu, c'est plus vraiment son corps, comment ça veut dire que quand elle est enceinte, elle peut plus travailler pendant 3 ans, contrairement à l'homme qui lui va, enfin bref, il y a pas mal de choses qui gravitent, qui font que vraiment ce spectacle peut avoir la vocation de ne pas être seulement en décentralisation, puisque l'idée à la base était de créer un spectacle local également, dans le coin, mais ce qu'on s'est dit, c'est effectivement, on ne va pas raconter une histoire qui se passe en Lozère, qui concerne que les Lozériens. Non, on va essayer de construire quelque chose de beaucoup plus large. C'est pour ça qu'on ne nomme pas tous les endroits pour justement, encore une fois... élargir et encore une fois, Thomas, Sylvain et moi, on a grandi chacun dans des villages, moi en l'occurrence en Bourgogne, Sylvain dans le Jura, donc on est inclus aussi là-dedans et on se rend compte que évidemment il y a plein de points communs d'un village à l'autre, bien sûr.
Et les spectateurs, ils en pensent quoi, eux ?
Ma première impression, c'est la puissance du texte. Il me semble que... c'était une question qu'il faut qu'on leur pose pour savoir si le texte a été écrit à l'issue de la rencontre avec tous les personnages, s'il était écrit avant. Mais enfin, on a l'impression d'entendre parler des gens qu'on a côtoyés, donc c'est très fort. Et puis cette mise en voix, elle est très vivante.
Alors moi je suis Nadine Fourès, je suis lausérienne mais expatriée à Montauban depuis 30 ans.
Et donc vos impressions sur la sortie de résidence de la compagnie ?
Alors moi j'ai trouvé ça très bien, original. Après il faut voir la mise en scène, comment ça va évoluer, mais le texte est très beau je trouve aussi. Moi ça m'a beaucoup plu franchement, étonnant mais bien.
Et donc c'est une vision que vous avez déjà sur l'agriculture ou pas du tout, des sujets peut-être que vous ne connaissiez pas ?
Alors je disais avec les copines que j'étais allée voir le film Au nom de la terre là, et quand ça a commencé, ça parlait du suicide, tout ça, j'ai dit oups, ça va être noir. Puis après j'ai trouvé que c'était bien mené. Et le chant du coq c'était rigolo parce que c'est bien d'actualité. Et si franchement, plaisant quoi, je trouve ça. Après moi l'agriculture je ne la connais pas mais j'ai vécu petite. Et je pense que les sujets abordés sont malheureusement d'actualité.
Exactement. Je vous remercie. Je vais poser une question à une d'entre vous. Est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs d'aller voir la pièce à Saint-Chély-d'Apché ?
Alors moi, je le conseillerais, oui, j'ai déjà très envie de le voir. Je ne sais pas si je vais pouvoir, mais ça donne vraiment envie d'aller jusqu'au bout, oui. Oui, oui. Les femmes sont en gaïque avec leur mari. Il y a quand même une grande évolution maintenant. Oui, c'est... Ça bouge beaucoup et c'est important. Oui.
Donc ça, pour vous, ça bougerait dans quel sens alors ?
Dans le sens où les femmes sont reconnues, ont leur place intégrale, sont ou exploitantes ou associées, et, ou ont leur propre activité. Ou alors il y a des femmes qui travaillent à côté. Moi j'en suis une qui a travaillé à côté. Oui.
Donc votre mari est agriculteur ?
Il était agriculteur.
D'accord.
Et moi j'étais infirmière libérale. Et ça a été nécessaire pour vivre.
Oui.
Même si on a fait chacun ce qui nous plaisait beaucoup.
Mmh.
Voilà. D'accord. On s'est permis ça aussi.
Okay. Bon, là, c'est un extrait qu'on a vu, mais les problématiques qu'ils abordent, est-ce que c'est quelque chose que vous avez connu, du coup ?
Oui. Oui, ça, oui, oui. C'est vrai qu'au départ, quand on attaquait sur le suicide, ça m'a plombé un petit peu. Je dis, ouais. Ah. Et puis, il ne faut pas voir que ce côté-là, quand même, parce qu'il y a tellement de belles choses qui se vivent dans l'agriculture. Mais c'est vrai que, oui, les problèmes étaient bien soulevés.
Eh bien, je vous remercie, mesdames. Bonne soirée. Et vous, monsieur, bonsoir.
Jean-Rémy, éleveur de brebis pour le lait.
Et quelles sont vos impressions sur cette sortie de résidence ?
Écoutez, pour l'instant, le début du spectacle va bien. Il aborde un certain sujet qui est assez tabou encore en agriculture. Bien que ça se développe de plus en plus, hélas, le suicide, les situations difficiles. Ce qui est mis en lumière, bien sûr, c'est l'acte de suicide, mais ce qui est moins mis en lumière, je pense, c'est surtout les causes, les origines de ce mal qui amène beaucoup d'agriculteurs à causer l'irréparable.
Voilà. Ça peut être que c'est quelque chose qu'on va découvrir dans la pièce qui sera représentée le 8 novembre, effectivement. Et sinon, vous, quelles difficultés vous rencontrez ?
Ben, on ne gagne jamais assez. Non, des difficultés. Après, moi, je travaille en individuel.
Oui.
Je suis sur une structure familiale et que j'ai voulu garder en superficie familiale. Après, le plus dur, c'est d'arriver à avoir quand même un revenu régulier, décent, et de pouvoir en vivre. Quoi. Voilà. Après, il y a des périodes plus heureuses que d'autres, et voilà.
Donc vous, ça a été... c'était une affaire familiale, en fait, à la base ?
Non, ça, c'est une affaire qu'on a repris d'autres personnes.
De d'autres personnes, d'accord.
Mais même avec une petite structure à l'heure actuelle, ça reprend trois vieilles structures... précédente. Donc voilà, même à un petit niveau, on a repris trois fermes. Donc voilà, même si on veut rester modeste, il faut quand même s'agrandir.
Par exemple, je ne sais pas si vous avez des enfants, est-ce que vous pensez que vos enfants pourraient reprendre votre activité plus tard ? Vous les encourageriez à le faire ou pas ?
Alors non, je ne force pas du tout mes enfants à choisir cette voie. Si mes filles avaient voulu la choisir, je les aurais accompagnées.
Mmh.
Mais il se trouve que ce n'est pas leur choix du tout, donc je n'insiste pas en ce sens.
C'est dû à quoi ? C'est juste parce que c'est quelque chose qui ne leur plaît pas ou
non,
c'est
ça ne leur plaît pas.
Oui, d'accord.
Ça ne leur plaît pas.
Ils ont abordé aussi le sujet de la place de la femme dans l'agriculture. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors moi, je suis un mauvais exemple puisque ma mère a déjà été une chef d'entreprise assez efficace et elle travaillait en parfaite harmonie avec mon père. Et même avec des années de recul, je m'aperçois qu'ils étaient peut-être, j'ose dire, avant-gardistes. En tout cas, la place était bien partagée. Ce n'était pas un chef d'exploitation, c'était monsieur et madame Barré qui géraient une affaire ensemble. Voilà, la place de ma mère a été très importante. Voilà. Je suis un mauvais exemple.
Eh bien, je vous remercie. Bonne soirée, monsieur.
Bonne soirée.
Merci. I was walking in the street one night, just thinking about the wrong and right. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est la fin de l'interview. Je vous rappelle que la compagnie La Joie Errante présentera sa création Vacarme ou comment l'homme marche sur la terre le 8 novembre au Cinéthéâtre de Saint-Chély-d'Apcher. D'autres dates à venir, le 9 novembre à Paulhac en Margeride, le 14 novembre au Massereau, le 23 novembre à Père en Aubrac. On se donne rendez-vous le 6 novembre à 20h30 à la Jeunette Verte pour le prochain spectacle 100 mètres papillon du collectif Colette.